Je remercie tous ceux qui se joignent à notre discussion, entre autres les gens du 104.7 Outaouais, les gens du 107.7 Estrie. Merci à tous ceux là, qui viennent de nous attraper. Vous pouvez réécouter notre première heure d'émission. On parlait de la vitalité commerciale à Montréal qui s'en va dans le dallo et des problèmes des commerçants, des taxes, trop de parcomètres, trop de vélos aux yeux de certains, trop d'autos remarqués aussi aux yeux d'autres. Alors, vous pouvez réécouter ça, bien sûr, sur notre site 98.5 et sur notre application. Vous allez cliquer sur l'émission Isabelle. Je voulais qu'on revienne sur une nouvelle qui est quand même assez inquiétante. Vous savez qu'on est de plus en plus gros au Québec. Il y a 40 % des Québécois adultes qui ont un tour de taille très inquiétant, beaucoup plus gros, deux fois plus important qu'en 1990, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec. Il y a 2 300 000 Québécois qui souffrent d'obésité abdominale. Ça, tu regardes ton tour de taille, tu regardes ton ventre, puis tu te dis « ouais ». S'il est tablette, là, si tu es capable de mettre quelque chose dessus, tu as un problème. Évidemment, pourquoi? Puis là, on ne parlera pas de look. On va parler vraiment de santé. Et mon invité s'intéresse depuis des années aux causes de l'obésité et surtout à leur impact. Et ce qu'il va nous dire, c'est qu'on n'y pense pas souvent. Mais l'obésité vous rend malade. Et qu'est-ce que ça vous donne comme maladie? Le cancer. Richard Béliveau est avec moi. Merci, Richard Béliveau, d'être là.
Bonjour.
Docteur en biochimie, je le rappelle, professeur émérite à l'UQAM, directeur scientifique de la chaire Prévention et traitement du cancer à l'Université du Québec à Montréal. C'est vrai, Richard, que vous vous intéressez aux impacts de l'obésité depuis des lunes.
Oui, et ça a été, honnêtement, ça a été une grande surprise en oncologie. Il y a 15 ans, l'obésité n'était pas un facteur de risque d'augmentation des cancers. Et le Center for Disease Control d'Atlanta, qui est un des plus grands organismes de santé publique au monde, l'an dernier a émis un communiqué à l'effet que le surpoids était maintenant aux États-Unis la première cause de cancer. C'est la première fois dans l'histoire de l'oncologie qu'on identifie un facteur de risque qui dépasse le tabac dans
Incroyable.
L'histoire de l'oncologie. C'est pas n'importe quoi. Alors qu'il y a 15 ans, le facteur de risque, je me rappelle, on avait eu une réunion avec des oncologues à travers le Canada et on cherchait une façon d'appliquer sur des concours au niveau des instituts de recherche en santé du Canada et l'obésité n'était pas dans les éléments qui avaient été retenus parce que ce n'était pas un facteur identifié. Donc, l'épidémie d'obésité, c'est un phénomène récent dans l'histoire de l'humanité. Les données de l'Institut de la santé publique le montrent que, en fait, si on regarde entre les années 80 et aujourd'hui, c'est 5 fois d'augmentation. Le pourcentage de gens.
5 fois?
5 fois d'augmentation, si vous regardez les années 80. C'est énorme. Si on prend un exemple, en fait, c'est à l'échelle mondiale. Hein,
ouais.
Tous les organismes de santé publique à travers le monde pointent maintenant le surpoids comme un problème de santé publique majeur. Je donne toujours
l'exemple. Mondial occidental, problème occidental. Non,
même dans les sociétés en voie de développement.
Ah,
j'ai
ouais.
donné une conférence au Mexique l'an dernier pour la santé publique. L'exemple du Mexique en est un particulièrement percutant. Dans les sociétés traditionnelles, comme la Mésoamérique, comme l'Afrique, comme l'Asie, le diabète de type 2 est pratiquement inexistant. Le pourcentage de population surpoids est très, très faible. Or, l'Arabie saoudite, l'Indonésie et le Mexique ont subi des augmentations spectaculaires de du pourcentage de la population qui est en surpoids. L'exemple du Mexique, en 89, 10 % de la population est en surpoids. 11 ans plus tard, c'est 60 %.
Et ça tient à quoi?
Essentiellement, l'augmentation de consommation de produits industriellement transformés. On délaisse notre alimentation traditionnelle. L'alimentation des Mexicains était basée sur les légumineuses, les céréales, beaucoup de légumes. Je vous rappelle que les tomates, les courges, le chocolat, tout ça, ça vient du Mexique. Il y avait de longues traditions. Ils ont délaissé ça au profit d'une alimentation de type industriel. Avec la sédentarisation, l'accès aux magasins à grande surface, c'est pathétique quand vous regardez les allées d'épicerie au Mexique. 80 % des produits sont des produits industriellement transformés. Je vous rappelle qu'au Canada, c'est 50 % des calories qui sont consommées qui proviennent d'aliments industriellement transformés.
Alors, c'est 50 %.
C'est énorme. On estime que 70 % du panier d'épicerie est constitué d'aliments industriellement transformés en Amérique. Alors, c'est un problème majeur, le surpoids. C'est un problème d'abord pour le diabète de type 2 parce qu'il y a une relation pratiquement exponentielle entre votre indice de masse corporelle et la probabilité de développer un diabète de type 2. Même à 25, vous avez trois fois plus de risque de diabète avec un IMC à 25, trois fois plus qu'à 23. Si vous êtes entre 25 et 30, c'est 8 fois plus. Si vous êtes en haut de 30, c'est 20 fois plus. Si vous êtes en haut de 35-40, c'est 40 fois plus.
Avec l'IMC, là, l'indice de masse corporelle, il faut qu'il se situe entre quoi et quoi?
La recommandation du Fonds mondial de la recherche sur le cancer, qui a compilé à peu près 300 000 études sur le lien entre l'alimentation, l'exercice et le surpoids. La première recommandation de 300-400 000 études compilées, c'est « be as lean as possible ». Soyez aussi mince que possible avec un IMC entre 19 et 24. On est loin de ça. La première conséquence du surpoids, c'est d'abord le diabète de type 2. On estime que si on avait une population mince, on fait disparaître à peu près 85-90% le diabète de type 2 dans les populations occidentales. Donc ça, c'est juste ça, pour le diabète de type 2, ça vaut la peine de perdre du poids. La deuxième, c'est les maladies cardiovasculaires, puis le cancer est maintenant rendu pratiquement équivalent là, au cancer. Cancer de l'utérus, on estime que 60% des cancers de l'utérus chez les femmes sont associés à surpoids.
Au surpoids.
Il y a 17 cancers qui ont été identifiés comme étant associés à la surcharge de poids. Le cancer de l'œsophage, qui est un cancer qui se traite très mal en clinique, qui répond mal à la chimiothérapie, qui répond mal à toutes les formes d'intervention thérapeutique, a augmenté de 400% dans les 30 dernières années dans la majorité des sociétés occidentales et s'est attribué à la hausse du surpoids populationnel. Donc, le cancer de l'œsophage, tous les cancers du tube digestif, la majorité d'entre eux sont affectés par la surcharge de poids. Parce que le surpoids, en fait, ça crée une inflammation chronique. Ça crée, on n'est pas physiologiquement, biochimiquement, l'être humain est adapté à la carence nutritionnelle. Dans notre évolution, on a été en carence de calories.
On est habitué à jeûner. Et non pas à se bourrer la face.
C'est ça. On n'est pas équipé biochimiquement, physiologiquement, métaboliquement au niveau de nos cellules pour gérer une surabondance de calories auxquels nous exposons nos corps depuis les 50-60 dernières années. Et ça prend des milliers d'années avant de sélectionner des gènes dans une population donnée pour qu'il y ait une adaptation là, à grande échelle. Donc, c'est évident qu'on n'est pas adapté à cette surcharge-là. Et la surcharge de calories qu'on consomme est stockée dans des lipides. Et ces lipides-là, dans les adipocytes, dans les cellules graisseuses, génèrent sécrète des molécules pro-inflammatoires, l'interleukine 6, le TNF-alpha. Cette inflammation chronique-là, c'est le dénominateur commun à toutes les maladies chroniques que sont le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, le cancer et maintenant l'Alzheimer. Il y a des données très claires qui montrent que si vous êtes en surpoids, si vous avez une hypertriglycéridémie, si vous êtes hypercholestérolémique, si vous êtes hypertendu, vous augmentez de 7 fois votre risque d'Alzheimer. Avec le vieillissement de la population, avec l'augmentation de l'obésité abdominale, on va avoir deux problèmes là, qui vont nous frapper de plein fouet. C'est le diabète de type 2 qui se gère très mal d'un point de vue intervention pharmacologique.
Ça coûte
une fortune à la société. C'est pas juste pour votre santé individuelle. C'est important de perdre du poids. Vous voulez réduire les files d'attente dans les hôpitaux, mettons-nous tout le monde à la perte de poids comme priorité, puis on va faire réduire les files d'attente. La gestion du poids, les problèmes de santé populationnels qui sont associés à la gestion du poids sont hallucinants dans les sociétés occidentales.
Il n'y a pas finalement, vis-à-vis de l'ampleur du problème tel que vous le décrivez, Richard Béliveau, il devrait y avoir des campagnes publicitaires part du gouvernement avec l'équivalent de campagne comme on voit de la SAG, genre rouler peut vous tuer. Il y a fumer peut vous tuer. Là, aujourd'hui, manger trop peut vous tuer. C'est ça qu'il faudrait dire aussi.
Exact.
Pourquoi on le fait pas? Parce que le message passe pas. Tout ce discours-là de dire fais une diète,
il passe pas.
C'est difficile. Les gens sont un peu tannés.
Les gens ont l'idée aussi que faire de l'exercice, je vais manger n'importe quoi, je vais faire de l'exercice. Ça, c'est ce que l'industrie de la malbouffe nous vend. Manger n'importe quoi, mais faire de l'exercice. Ça, c'est faux. Les études le montrent. Écoutez, une boisson gazeuse, c'est 40 minutes de marche. Prenez deux boissons gazeuses par jour, c'est une heure et demie de marche avant de vous coucher le soir. Personne ne va faire ça. Ouais. C'est impossible de brûler les calories de l'alimentation industrielle avec quelqu'un qui travaille, qui a une famille puis qui est occupé. C'est impossible. Il faut couper l'input, il faut réduire l'input. Pas avec des diètes, pas avec des régimes de fous, avec une prise de conscience à long terme. Parce que le corps humain, la physiologie humaine, le corps humain est tellement puissant en capacité d'adaptation que si vous le soumettez rapidement à une carence calorique, il va s'adapter. Il va réduire son métabolisme. Et donc, il faut y aller tranquillement.
Ce qu'on dit, on dit souvent, ah, mon estomac, il a réduit. Ah. Bon, est-ce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça.
Ça prend des années. les Chinois ont une belle expression, il faut maigrir pour manger moins.
Oui, c'est ça.
C'est l'inverse. Ouais. Hein, parce que quand vous êtes en surpoids, il y a des dizaines de peptides, d'hormones, de facteurs qui sont relargués par vos tissus. Et pour beaucoup de spécialistes en obésité, le surpoids, c'est un problème neurologique. C'est une cacophonie hormonale qui fait que votre cerveau est plus capable de savoir est-ce que j'ai faim, est-ce que je suis rassasié. Quand vous êtes en surpoids, votre tissu adipeux et les autres organes modulés par le tissu adipeux relarguent toutes sortes de molécules qui vous laissent croire que vous avez faim alors que c'est évident que vous n'avez pas faim, que vous avez amplement de réserves caloriques pour survivre à des périodes de famine.
Mais Richard, est-ce que vous pensez que les gens, s'ils sont gros, puis visiblement toutes les études le confirment, de plus en plus gros. Est-ce que c'est parce qu'on mange trop? Il y a plein de gens qui ont plein de justifications, qui vont dire « Non, moi, c'est mes hormones. Non, ah, je prends des pilules. Non. Ah, moi, c'est génétique. On est tous gros dans ma famille. » On a toutes des raisons là, de justifier le fait qu'on est en surpoids.
On va en parler. Ça, c'est très intéressant, le point que vous apportez. En fait, si on engraisse autant, c'est un problème évolutionnel. Dans l'histoire de l'humanité, on a été décimé par les famines. Et les famines ont fait qu'on a sélectionné quelque part dans l'évolution, souvent, partout sur Terre, il y a eu des gens qui ont eu des mutations qui leur ont permis, à partir d'un apport calorique minime, de faire une petite bédaine, de stocker des réserves caloriques de façon plus efficace. Quand les famines ont décimé ces populations-là, qui a survécu? Ceux qui avaient une petite bédaine parce qu'il y avait des réserves caloriques. Ils géraient de façon plus efficace l'apport minimal calorique que leur environnement leur permettait d'obtenir. Vous sélectionnez pendant des millions d'années, si on regarde nos ancêtres, puis les hominidés, puis les homininés, ces gènes-là, et tout d'un coup, vous passez d'un environnement de carence calorique à un environnement de surabondance calorique, et bingo, ces gènes-là qui vous ont protégé des famines sont maintenant responsables de l'épidémie d'obésité. Moi, je dis, quand je donne des conférences à des agents, à des groupes de personnes qui ont des problèmes de gestion de poids pour le Diabète Canada...
Et qui disent, c'est pas de ma faute!
Non, mais j'en ai donné beaucoup de conférences à ces gens-là, et je le dis toujours, si vous avez tendance à engraisser, votre premier réflexe, là, soyez fiers. Très fier.
D'avoir survécu.
Parce que c'est grâce à vous que l'humanité a survécu. Moi, quand je rencontre une personne en surpoids, j'ai envie de l'embrasser puis de la féliciter d'un point de vue évolutionnel, parce que c'est grâce à ces gènes que l'humanité a survécu. Maintenant, dans l'environnement nutritionnel dans lequel on vit, il faut, malheureusement, si vous avez une tendance à prendre du poids, que vous ayez un souci encore plus important, une prise de conscience encore plus importante en vous disant, un peu comme un litre d'essence dans une Ferrari ne donne pas la même performance que dans une autre auto, le même litre d'essence, la part calorique que j'ai, je dois y faire attention parce que j'ai tendance à stocker l'excès que je vais consommer sous forme de triglycérides dans mes cellules adipeuses. C'est une prise de conscience qui doit se faire. Pas une prise de conscience de culpabilisation,
mais
une prise de conscience de dire la chose, si je ne fume pas, la chose la plus importante que je puisse faire, pas pour vivre jusqu'à 200 ans, là, pour vieillir en santé, c'est d'avoir un poids santé, de ne pas avoir d'obésité abdominale. C'est quand même quelque chose, ça, parce qu'il n'y a rien, comme vous le dites, il n'y a rien dans nos sociétés présentement qui nous amène à cette prise de conscience-là.
Or, même un contre-discours, on va en parler après la pause.
Ben
je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Safia Nolin qui revendique aussi la liberté du corps avec une rondeur généreuse. Bon, elle, il y a bien des gens qui le disent. Moi, je suis grosse et heureuse ou je suis gros et heureux. Il y a Guylaine Guy qui parle de ça aussi, qui essaye d'enlever la culpabilité des gens qui sont en surpoids. Puis je pense que ça aussi, ça fait œuvre utile d'une certaine façon parce qu'il y a des gens qui mangent leurs émotions, qui sont gros mais qui ont de la difficulté à maigrir. On va donner l'occasion au public d'intervenir tout de suite après la pause. Je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui vont nous dire qu'ils essayent mais qui ont de la misère, puis que c'est pas facile. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut considérer. J'aime bien votre approche, c'est de dire on va pas faire culpabiliser les gens, mais on va leur expliquer pourquoi c'est important. Puis ça, faut le faire. 514-790-9850. Pour nous joindre sans frais, partout au Québec, 1-866-790-9850. C'est vrai qu'on est de plus en plus gros. Racontez-moi votre expérience avec votre poids. Êtes-vous en surpoids? Essayez-vous de perdre un peu de poids, justement? Est-ce que ça vous préoccupe, le fait qu'on a de la misère à contrôler ces aliments qu'on mange qui sont industrialisés. Ça demande toute une prise de conscience. Des fois, on a l'impression que ça coûte très cher aussi. Richard Béliveau va avoir certainement des réponses pour vous. À tout de suite, tout le monde. On parle d'alimentation, les Québécois sont de plus en plus gros, mais il y a des gens comme Francine qui ont changé leur alimentation. Bonjour Francine.
Oui, bonjour. Moi, j'ai décidé, à partir du 1er mars, j'étais une bébête à sucre, je carburais beaucoup aux glucides, le sucre. Le 1er mars, j'ai dit, ça suffit. Là, je suis rendue, ça fait 6 mois, aucun produit transformé, j'ai perdu 30 livres, j'ai plus de ventre, je suis pratiquement à mon poids santé, je capote tellement l'énergie que j'ai. À 100 glucides par jour.
Ça s'entend, votre énergie, Francine. Bravo. Hey, Richard Béliveau, oui, super content.
Puis j'ai 56 ans. Moi, je me dis toujours, la ménopause, c'est pas vrai, c'est des glucides. Mon conjoint s'entraîne au centre épique. Il y avait le docteur qui était là. Puis c'était marqué en gros. Le sucre est un poison pour le corps. Et c'est vrai, les glucides, c'est ça qui nous tue.
Mon Dieu, vous avez entendu notre conversation pendant la pause, Francine, ça se peut pas. C'est exactement ce qu'on se disait avec le docteur Béliveau, docteur en biochimie, qui, je le rappelle, est professeur émérite à l'UQAM et qui est directeur scientifique de la chaire prévention et traitement du cancer et qui nous dit, bon, le cancer, il y a un lien direct avec l'obésité, il va falloir que ça nous rentre dans la tête parce que le cancer, ça coûte cher aussi en coût. Et Richard le disait aussi pendant la pause, il faut absolument le rappeler, tous ces coûts-là vont finir par nous amener dans le mur.
Les gens qui regardent ça à l'échelle mondiale, madame, je suis très, très fier de ce que vous nous avez dit tout à l'heure.
Mais 30 livres, c'est pas rien.
C'est absolument extraordinaire. C'est des gestes comme ça qui changent, qui vont changer votre vie, qui vont vous donner une meilleure espérance de vie, une meilleure espérance de vie en santé. Vous êtes un exemple fantastique pour les personnes autour de vous. Je vous félicite. C'est ça qu'il faut faire, c'est une prise de conscience. Les gens qui regardent ça au niveau de l'évolution des systèmes de santé publique voit l'épidémie d'obésité comme une des causes de l'effondrement des systèmes de santé là, à l'échelle mondiale avec l'épidémie d'obésité. J'ai donné l'exemple du Mexique tout à l'heure. Pendant la même période où on est passé de 10 à 60 %, le diabète de type 2 a augmenté de 700 % pendant la même période. Or, ce qu'on oublie, c'est que les jeunes, madame, vous l'avez fait, et ça, c'est très important que vous ayez mentionné votre âge, parce qu'on pense qu'il est toujours trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer. Toutes les études du monde, même pour l'Alzheimer, quand on fait marcher les gens à 80 ans, on voit des diminutions du déclin cognitif, là, des protections contre l'Alzheimer. Quel que soit l'âge, même si ça fait 20 ans que vous êtes en surcharge de poids, il n'est jamais trop tard pour perdre du poids. Et visez pas des grandes pertes. Vous, c'est extraordinaire ce que vous avez réussi à faire. Commencez, les Chinois disent, même le plus long des voyages commence par un simple pas. Commencez tranquillement. Ouais. Le premier kilo que vous allez perdre, c'est le kilo le plus important. Allez-y tranquillement.
Les boissons sucrées.
Allez-y à long terme. Si vous ne fumez pas, la première chose à changer dans vos habitudes, c'est de bannir les boissons gazeuses de votre panier d'épicerie.
Mais ça c'est important aussi de dire la cigarette, parce que les médecins le disent encore, si tu veux améliorer une chose dans ta santé, arrête de fumer.
La première chose, c'est d'arrêter de fumer, parce que 90 % des cancers, la première cause de cancer, le premier cancer au Canada, le premier tueur, c'est le cancer du poumon. 90 % des cancers du poumon, c'est le tabac. Mais le deuxième tueur, c'est le cancer colorectal. C'est plus que la prostate et le sein en termes de mortalité. Là, on l'oublie. Et le cancer colorectal est directement associé à la surcharge de poids. Ça, c'est clairement établi. Le cancer colorectal Canada fait un travail extraordinaire avec un programme qui s'appelle les Foods That Fight Cancer. Ils ont des programmes de sensibilisation à l'exercice et tout ça. On prend l'exemple du Japon. Les Japonais avaient un des plus faibles taux de cancer colorectal en 1980 au monde. Et maintenant, ils ont un des plus élevés au monde. En 25 ans, ils sont passés d'un des plus faibles à un des plus élevés, associé à l'augmentation du surpoids puis au changement de l'alimentation.
Donc, de sucre et trop
C'est ça. C'est un problème de surpoids puis c'est un problème de mauvaise alimentation.
On a Sylvain qui est avec nous. Bonjour, Sylvain.
Bonjour. Moi, je peux juste vous dire que c'est pas vrai qu'on est heureux quand on est gros. J'étais gros. J'ai fait une prise de conscience à un moment donné, puis j'ai perdu 62 livres. Riz, pâtes, pain, patates, j'ai tout lâché ça. Tout le sucre, j'ai lâché ça. Et c'est un gène. Oui, je sais que pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais je faisais de la pression, je faisais du cholestérol. J'avais une opération au genou à venir. J'ai plus rien. J'ai plus de pression, plus de cholestérol, plus d'opération. J'ai de l'énergie comme ça se peut, même pas. Comment je pourrais te dire... ça a été une délivrance, mais c'est pas vrai qu'on est heureux, qu'on dit « Ah non, je suis correct, je suis gros, je suis heureux comme ça ». Non, c'est juste parce qu'on veut pas on se regarde en miroir, mais on veut pas le voir, puis ouais. On se dit, bon, ben, c'est des efforts, puis on veut pas faire les efforts.
C'est difficile.
L'année passée, j'ai dit, je fais les efforts, je me suis inscrit à la clinique, justement pour ça. Ça m'a coûté de l'argent, c'était un argent qui était très bien investi. Et maintenant, je peux vous dire aujourd'hui, c'est garanti, jamais je vais réengraisser. Jamais.
Wow, bravo.
Je suis trop bien en perdant du poids.
Merci, Sylvain. On a Annick qui nous appelle. Bonjour, Annick. Vous avez perdu 3 fois, à 3 reprises, 60 livres. Donc, ça veut dire que vous avez joué au yo-yo, je comprends bien?
Exactement. T'sais, ma première fois, j'avais à peine 19 ans, j'ai perdu 60 livres, j'ai maintenu. Mais tu sais, quand tu prends ça comme une diète, j'étais chez Weight Watcher, ben c'est sûr que tu sais, dès qu'on lâche ces efforts-là puis qu'on retourne à notre routine, on reprend le poids. Aujourd'hui, ben j'ai compris plus de choses et j'ai réussi à l'aide d'une pharmacothérapie pour l'obésité de reperdre une 30aine de livres. J'ai compris aussi que je serai probablement jamais à un IMC de 25, mais que je suis bien dans mon corps, je suis fonctionnelle. Je suis même rendue végétarienne, je fais 1000 pas par jour. Je pense que ma santé globale s'est vraiment améliorée, mais c'est sûr que c'est un processus chronique, c'est difficile. Mais c'était à tous les jours, il faut penser à ce qu'on va manger, à ce qu'on va faire. Fait que c'est vraiment un travail de longue haleine d'essayer de maintenir notre poids dans le mieux possible pour notre santé.
Ouais, merci beaucoup. Merci. Puis bonne chance, Annick. Sylvain, bonjour.
Bon matin.
On vous écoute.
Oui. OK. Bon matin, Isabelle, c'est Sylvain. Moi, j'ai été opéré à cœur ouvert le 9 février cette année. OK. Bon, j'ai perdu de la masse musculaire, mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont demandé comment ça se fait que j'avais eu 4 pontages, autrement dit, des artères bloquées. Uh-huh. Quand j'étais en forme, j'ai passé ma vie dans les gymnases. Ben, c'est le stress. Et c'est sûr que la nutrition, dans certains cas, ça nuit. C'est souvent émotif, c'est souvent relié à les émotions ou quoi que ce soit. Puis des fois, on dit c'est hormonal, c'est souvent buccal, c'est parce que tu manges trop. Mm. Tu sais? Fait que par rapport à ça, ben moi j'ai repris mon âme. Puis la nutrition, ben je fais un régime qui s'approche de méditerranéen. C'est que plus de sucre, la cuisson à l'huile d'olive, c'est vraiment strict, c'est vraiment sévère. Moi je donnais des entraînements puis des régimes à l'époque pour maigrir et prendre du bon poids. Fait que c'est possible de se prendre en main. Puis on est notre médecin, hein. C'est nous autres qui sauvent la vie. Les médecins, eux autres nous accompagnent, la science nous accompagne. Mais nous, on se prend en main, puis c'est que mon cardiologue, c'est ce qu'il me dit, il était opéré à l'Institut cardiologique de Montréal, Johan Lamarche, puis il me dit, c'est un travail d'équipe.
Ouais.
Fait que pour soit prendre du poids ou perdre du poids, il y a une façon de le faire, puis je pense que on est notre propre médecin, puis moi, je vous avoue, je pense à plus de m'entraîner ou quoi que ce soit, puis j'étais de 4 pontages, c'est 4 heures d'opération, 1 heure le cœur arrêté, c'est majeur, là.
Ouais,
ben, je suis en forme comme j'étais, même mieux. Et le nouveau kit que j'ai eu un très bon kit, mon Stanley, un bon kit, j'appelle ça mon kit. Je m'entraîne régulièrement puis tout. Puis les médecins, tous les cardiologues vont vous dire.
Les cardiologues, mais ouais, mais il y a encore beaucoup de médecins qui oublient de le mentionner avec l'alimentation. Ouais, c'est ça. Merci ça, c'est... Sylvain, bravo,
bon,
bravo.
Bonne journée.
Richard Baliveau, il y a Céline qui dit, ok, mais on fait quoi quand on a toujours faim?
Ouais, c'est pour ça.
Les gens veulent des trucs, là. Qu'est-ce que vous pourriez suggérer?
En fait, je pense qu'il faut prendre conscience. Le dernier témoignage de monsieur était très intéressant là-dessus. Il faut d'abord se convaincre, à faire une prise de conscience fondamentale de dire que c'est tout le monde en recherche. Tous les savants de la planète, puis tous les médecins de la planète vont vous dire que le surpoids, c'était un problème de santé majeur. Donc, il faut d'abord prendre conscience de ça et aller s'aider de nutritionnistes, consulter des gens. Le monsieur parlait de l'Institut de cardiologie. Santé PIC fait un travail extraordinaire en sensibilisation. Consulter des professionnels de santé, particulièrement des nutritionnistes, pour savoir, souvent, dans notre quotidien, il y a des petits gestes qu'on pose qui semblent anodins. On ne devient pas obèse.
Comme, par exemple?
Manger une barre de friandises au milieu de l'après-midi, manger en soirée, par exemple. Les études ont montré que si vous êtes capable d'avoir un 11h, 12h de jeûne entre la dernière bouchée du souper et votre première bouchée du lendemain, le petit verre de lait que vous prenez au milieu de la nuit, le petit biscuit avant de vous coucher, lui, il fait un reset métabolique de toutes vos sécrétions d'hormones qui sont associées à la surcharge de poids. Buvez beaucoup d'eau. Lorsqu'on boit beaucoup, on a moins faim. Pas parce que l'eau fait maigrir, mais parce que lorsque vous occupez l'espace gastrique avec de l'eau qui a 0 calories, votre cerveau enregistre en partie, pas à 100%, mais un volume qui est occupé dans l'estomac.
Si on a une chose à couper...
les boissons gazeuses. Ah. Ça, c'est sûr. Ça. Diète et pas diète, c'est la même chose. Parce que quand vous consommez une boisson gazeuse diète, contrairement à ce que l'industrie veut vous vendre, votre cerveau enregistre le goût de sucre et vous allez, d'un point de vue comportemental, puisque vous ne lui donnez pas les calories que vous lui avez annoncées, votre corps va consommer davantage de calories dans ce repas-là. Et dans toutes les études où on a comparé boisson diète versus boisson non diète, on a la même augmentation d'obésité, puis d'obésité abdominale et de l'indice de masse corporelle. Donc, il n'y a pas d'impact des boissons diète sur la réduction de l'obésité.
Richard Béliveau, c'est toujours passionnant de vous entendre, puis ça fait œuvre utile. Merci beaucoup. On a très hâte de vous revoir à nouveau à l'émission. Merci à tous ceux qui nous ont appelés pour partager ce qu'ils vivaient. Il y avait encore beaucoup de gens là, qui voulaient intervenir. On aura l'occasion de revenir au cours de la saison là, sur ce qu'on peut faire pour s'aider un peu. Vous avez compris, là, c'est un vrai, vrai, vrai problème de santé publique. Tout de suite après la pause, je reçois un entrepreneur qui va nous raconter comment il a réussi à bâtir un empire avec ses skates. À tout de suite, tout le monde.